C'est quoi ce petit sourire ?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite ?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement ?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top !
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Quoi de plus terrible pour un chanteur que de perdre la voix ? Eh bien, c'est pourtant ce qui, au premier tiers du 19e siècle, est arrivé au chanteur François Delsarte, et c'est ce qui va faire de lui le précurseur de la danse moderne, figurez-vous. Cet homme perd la voix, et dans la foulée, peut-être pour compenser, il va se lancer dans toutes sortes de recherches sur les rapports entre la voix et le geste. Et ça l'amène à élaborer tout un catalogue de mouvements, un catalogue fondé sur des observations quotidiennes. C'est empirique au départ tout ça, mais d'empirique, cela va devenir théorique. Camille Saint-Saëns l'affirme. Il avait étudié à fond l'art de la parole et du geste. Là, il était passé maître. Son système expose, à travers les conférences qu'il va donner, notamment à la faculté de médecine, son système expose la relation subtile entre la pensée, l'émotion, le geste. Selon Delsarte, rien n'est aussi horrible qu'un geste dépourvu de signification. Il faut que le geste soit plein de sens. Ah là, on est en train déjà, si j'ose l'expression, de toucher du doigt ce qui va être à l'origine même de la naissance d'un art. Influence immense de Delsarte, Degas, le peintre Degas, est admiratif, ce qui n'est pas fréquent chez Degas. Et voilà qu'il note « Étudier les observations de Delsarte sur les mouvements passionnels de l'œil, faire des portraits des gens dans les attitudes familières et typiques, surtout donner à leur figure les mêmes choix d'expression qu'à leur corps. » Très intéressant, là encore, pour ce qui est de la compréhension du portrait dans l'école moderne. Delsarte va faire école, on parle de Delsarte Mania, et il fait école auprès des chanteurs, ça c'est évident, et des comédiens, des orateurs aussi, dont Alfred Giraudet qui publie en 1895 les bases de son enseignement oral. Son élève, le livre en question, c'est « Physionomie et gestes, méthode pratique d'après les systèmes de François Delsarte ». L'élève le plus doué de Delsarte, c'est un Américain, il s'appelle James Steele McKay. C'est lui qui va dispenser un enseignement fondé exactement et essentiellement sur le geste à travers son pays. Et voilà comment une jeune fille va hériter de cette mobilité gestuelle. Cette jeune fille est préoccupée d'art, elle est éveillée au mouvement par les cours d'une élève de Steele McKay. Vous voyez, on est déjà à la deux, pour pas dire troisième génération des élèves. Et cette jeune fille, elle s'appelle Isadora Duncan. Elle est née en 1878 et elle, au contraire de Delsarte, elle ne va pas construire de théorie. Elle va tirer parti d'une liberté d'expression qui jusqu'alors n'avait pas été admise. Elle va rejeter dès son plus jeune âge la danse classique avec sa gestuelle totalement codifiée, figée. Elle va rejeter tout ça au profit d'une expression sans contrainte, mais qui ne soit pas pour autant improvisée. D'abord, elle danse pieds nus. Elle est vêtue d'une tunique grecque légère devant un rideau de scène bleue. C'est en tout cas comme ça qu'elle se présente à son premier récital à New York en 1896 et ça fait tout de suite sensation. Et on la voit bientôt à Londres où elle va découvrir l'art grec au British Museum. On la voit ensuite à Paris au théâtre Sarah Bernhardt lors de l'exposition universelle de 1900. Voilà ce qu'elle dit. « Je suis venue en Europe pour provoquer une renaissance de la religion par la danse, pour exprimer la beauté et la sainteté du corps humain par le mouvement. » Avec un succès immédiat, des artistes, des écrivains, des musiciens vont très vite prendre conscience de l'importance de ce qui est là. Rodin va dessiner Isadora Duncan. Bourdel s'inspire de sa danse pour les bas-reliefs du théâtre des Champs-Élysées. Voici ce qu'écrit Jean Cocteau qui résume d'une certaine manière l'esthétique qui est en train de voir le jour grâce à Isadora Duncan. C'était l'école de Rodin, écrit Cocteau. C'était l'école de Rodin. Peu la dérange notre danseuse si la robe glisse et découvre des formes informes, si les chairs tremblent et si la sueur coule, tout cela reste en arrière de l'élan. Vous imaginez le succès en Europe de cette Isadora Duncan qui se produit de théâtre en théâtre. Elle commence par la Grèce, elle s'inspire continuellement de cette Grèce et de cet âge classique. Ensuite, elle passera par Vienne où elle monte le chœur des suppliantes d'Eschyle avec un groupe d'enfants grecs. Elle chorégraphie les danses du Tannhauser de Wagner à Bayreuth. C'est une demande personnelle de Cosima Weidner. Elle influence, lors de son séjour en Russie en 1905, elle influence celui qui va devenir le chorégraphe des ballets russes, Michel Fokine. Et cependant, elle est toujours aussi opposée à la technique classique, je la cite. Le but de tout cet entraînement paraissait être une coupure complète entre les mouvements du corps et ceux de l'âme. C'est justement le contraire de toutes les théories sur lesquelles j'ai basé ma danse. Le corps doit devenir translucide et n'est que l'interprète de l'âme et de l'esprit. Le corps comme interprète de l'âme, voilà peut-être le secret, finalement. Alors, vous connaissez la mort d'Isadora Duncan, étranglée par son écharpe un jour où elle était en train d'essayer une automobile. Bref, on peut dire que cette mort va sonner le glas d'une danse inspirée par Berlioz, Liszt, Wagner, qui lui est propre et que d'autres ne perpétueront qu'à travers des imitations dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas été de francs succès. De même, les écoles qu'Isadora Duncan aura semées dans toute l'Europe n'auront légué aucun disciple. C'est une danse qui, en quelque sorte, ne va pas lui survivre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
J'ai parlé d'Isadora Duncan, vous me voyez venir. Je vais vous parler d'une amie d'Isadora, aux côtés de qui elle a fait une tournée en 1902 et créé de nouvelles formes avec des grands tissus qu'elle agite le long de ses bras. Et oui, me voilà avec Loï Fuller. Danse intuitive, avec des mouvements qu'elle projette sur les voiles dans une espèce de flamboyance colorée. Et tout le monde est sous le charme. Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, qui dessine des affiches s'inspirant de Loï Fuller et la mettant en valeur. Mallarmé la décrit en associant l'envolée des vêtements de la danse puissante et vaste au point de les soutenir à l'infini comme son expansion. Bon, il y a peut-être un peu... il y a peut-être un peu d'exagération dans l'emballement du tout Paris pour les grands gestes de voile de Loï Fuller, mais c'est le phénomène de l'époque, la danse serpentine, la danse fleur, ce papillon qui lui est spécialement consacré lors de l'expo de 1900, et c'est Anatole France qui va préfacer les mémoires de Loï Fuller. Il écrit « Madame Loï Fuller est pour moi une femme de génie avec toutes les ressources de son talent ». L'œuvre chorégraphique de Routh-Saint-Denis va marquer la naissance aux États-Unis de la modern dance. Routh-Saint-Denis, elle a une révélation, elle, en observant non plus l'art grec, mais l'art égyptien. Elle va, très jeune, accumuler une vaste documentation sur tous les arts du Proche et du Moyen et de l'Extrême-Orient. Et ses premières chorégraphies vont traduire sa passion pour les mouvements les plus exotiques qui puissent être. Elle invente de nouvelles formes de danse qui, certes, n'ont pas l'air très authentiques et qui peut-être sont un petit peu trop marquées par les esthétiques orientales. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de naître avec tout ça, c'est une nouvelle gestuelle. Un extrait de Spartacus d'Aram Khatchatourian qui dirigeait lui-même l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1962.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors cette route Saint-Denis, elle va faire école. Il y a un jeune danseur, il s'appelle Ted Shawn, qui la découvre et il va s'associer avec elle en créant le Denny Shawn, une compagnie de danse qui est une sorte de laboratoire d'expérience en matière de mouvement. On ouvre d'ailleurs une école à Los Angeles avec un enseignement qui n'est pas limité à la danse. On étudie également la musique, les arts plastiques, la poésie, la littérature. Vous savez, c'est cette époque où on veut faire de l'interdisciplinarité à tout prix, bien entendu. On s'intéresse aussi à des danses orientales, danses américaines traditionnelles, au flamenco. On pratique la danse classique pieds nus. On peut considérer Ted Shawn comme un des plus authentiques héritiers de François Delsarte. Et d'ailleurs, il va mener une activité de conférencier très importante. Il va développer ce système du théoricien français. On va le voir également développer la danse masculine. À l'époque, seules les ballerines, seules les danseuses étaient considérées, même dans la danse moderne. Et bien voilà que avec le Ted Shawn and His Ensemble, on va voir des danseurs masculins créés. Pacific 231, sur une musique bien sûr d'Arthur Honegger, O Libertad, inspiré par la Première Guerre mondiale. Vous voyez que la politique s'invite dans l'affaire. Les considérations d'ordre humaniste, les considérations d'ordre sentimental font leur apparition contre tous les anciens codes du ballet. L'histoire de la danse moderne en Europe, pour une grande part, va naître des travaux d'un musicien suisse qui s'appelle Émile-Jacques Dalcroze. Il découvre la rythmique. Dalcroze est compositeur, il est prof d'harmonie au Conservatoire de Genève, et il tente chez ses élèves de corriger l'arythmie du corps. Le manque de coordination, si vous voulez, entre la conception d'un mouvement et sa réalisation. Ça paraît un peu théorique comme ça. Je le cite. Le geste en lui-même n'est rien. Sa valeur réside tout entière dans le sentiment qui l'anime, et la danse la plus riche en combinaisons techniques d'attitudes corporelles ne sera jamais qu'un divertissement sans portée ni valeur si son but n'est pas de peindre en mouvement les émotions humaines. Voilà ce qu'on veut faire. Un peu à la manière de ce que veulent faire les peintres de la même époque. On veut provoquer, susciter des émotions, parfois contraires ou contrariées, susciter chez le spectateur des émotions et non plus seulement le plaisir d'une esthétique parfaite. On ne se dirige plus vers une perfection. On veut simplement aller vers une expression. Voilà, en fait, le secret de cette histoire. C'est Dalcroze qui va fonder à Elrow, qui est un district au nord de Dresde, hein. Il va fonder un institut. On est là en 1911. Vous voyez qu'on est tôt, hein, quand même, dans le 20e siècle. Institut que fréquenteront des gens comme Claudel ou George Bernard Shaw, ou des metteurs en scène comme Adolphe Appiah, Constantin Stanislavski, bien sûr, ou Max Reinhardt, et bien sûr Serge de Diaghilev. En 1913, Diaghilev demande à une élève de Dalcroze, Marie Rambert, de seconder Nijinsky pour le découpage rythmique du fameux Sacre du printemps de Stravinsky. Tous ces arts de la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, coïncident. Alors, il y a des similitudes entre Dalcroze et Rudolf Laban, lui, je n'en ai pas encore parlé. Lui va déployer son activité en Allemagne jusqu'en 1936, passionné de peinture, grand musicien, observateur des danses des derviches en Asie mineure. C'est intéressant aussi de voir que, à mesure que s'étendent les puissances européennes, elles intègrent en quelque sorte les savoirs et les pratiques de peuples de plus en plus éloignés. La philosophie de Laban n'en reste pas moins intérieure. Chez lui, comme chez Dalcroze, le geste n'est que révélateur d'un sentiment, d'une émotion, de conflits intérieurs, révélateur aussi d'un environnement social et politique, car l'art n'est plus capable à ce moment-là de se détacher de la politique. Le danseur est au centre d'une espèce de sphère d'où rayonne une gamme complexe de mouvements. L'alliance de la danse, du son, le son est absolument essentiel pour ces danseurs-là, et puis du mot également. Tout ça va animer les compositions chorégraphiques de ce Rudolf Laban, qui utilise aussi bien des percussions que des musiques folkloriques, toutes sortes de textes. Il y a des musiques classiques aussi, Handel, Mozart, Wagner. Il met en scène en 1930 Tannhäuser à Bayreuth. L'orchestre est dirigé par Toscanini, d'ailleurs. On aurait bien aimé voir ça, quand même. Fait nouveau, c'est lui qui va régler aussi des danses
en silence. Selon lui, l'expressivité de la danse surpasse le sens primitif du silence, de la musique, du mot. Mais elle est sans valeur si son but n'est pas de peindre en mouvement les émotions humaines. Voyez que c'est ça qui reste essentiel, bien sûr. Son premier ouvrage s'appelle « Écriture de la danse ». Ça sort en 1928. Ça permet de lancer tout un système de notation très lisible et tout à fait maniable qu'on appelle l'abonisation. Par exemple, aujourd'hui encore, Angelin Prège-Lecage, aujourd'hui encore, malgré l'apport essentiel de la vidéo dans la conservation des œuvres, des chorégraphes comme Prège-Lecage n'hésitent pas à utiliser la labonisation pour rendre compte de chaque mouvement de chaque danseur. C'est peut-être un système de notation plus complet et qui permet de prendre en compte la totalité des danseurs, quel que soit leur nombre dans un ballet. Ce qui est en train de naître, finalement, c'est un nouveau système de codification. L'Orchestre symphonique de San Francisco, sous la direction de Herbert Blomstedt, interprétait cette célèbre danse du Carmina Burana de Karl Orff.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il faut remercier chaleureusement Jérémy Bigori d'avoir fait ce travail de, à la fois d'analyse et de synthèse pour nous permettre de revivre les origines de ce qui va devenir peu à peu le ballet contemporain. Alors, on a parlé de d'Émile Jacques Dalcroze, de Rudolf Laban. Il y a une héritière des deux, c'est Mary Wigman, qui va se forger une puissante personnalité de danseuse et de chorégraphe. Elle est vraiment, elle, cette Mary Wigman, elle va être, comment dirais-je, elle va être l'incarnation du destin de l'Allemagne, d'une certaine manière. En 1914, sa danse de sorcière reflète tout ce qui est en gestation dans cette Allemagne meurtrie, sa passion pour la peinture expressionniste, son attirance pour les masques qui augmentent par leur neutralité, le caractère expressif des gestes. Plus vous cachez les visages et plus le geste du corps ressort d'une certaine manière. Et puis, l'inspiration également médiévale, elle s'inspire du Moyen-Âge allemand. Tout ça accentue ce qu'il faut bien appeler le pessimisme de ces danses. La danse est un langage vivant qui parle de l'homme, un message artistique qui s'élance au-delà de la réalité, afin de parler, pour ainsi dire, à un niveau plus élevé en images, en allégories, des émotions les plus intimes de l'homme et de son besoin de communiquer. Parce que l'homme lui-même est à la fois émetteur et intermédiaire, parce que l'instrument de l'expression est le corps humain. En fait, vous voyez que tous ces chorégraphes, d'une certaine manière, sont à l'origine de ce qui ensuite s'épanouira dans l'art d'un Maurice Béjart ou d'une Pina Bausch. Bien entendu, toujours ce besoin d'exprimer des expressions et non plus de conformer des corps à un code ou à une esthétique. Le chorégraphe allemand Kurt Jos va mettre en application les théories de Laban. Jos est un expressionniste lui aussi. Il va chercher des lois de l'espace, des lois du mouvement dans les rapports qu'ils ont avec une nature dans laquelle ils dansent en contact direct. Ces ballets utilisent un décor essentiel tout en laissant la primauté à la danse. La musique souvent n'est appliquée au ballet qu'une fois la chorégraphie achevée, c'est-à-dire qu'on fait une chorégraphie et là-dessus on cherche la musique. Notre désir est de servir la danse scénique qui, pour nous, est la synthèse la plus significative entre l'expression vivante et dramatique et la danse proprement dite, dit-il.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Faudrait, pour être à peu près complet, si j'en crois Jérémy, citer également Harald Kreutzberg, figure très importante de la danse allemande, découverte par Max Reinhardt. Il accepte, On peut dire qu'il devient célèbre et en réglant les danses de la Waffentanz pour les Jeux Olympiques de Berlin en 36. Et on le verra apparaître dans pas mal de films où éclate un véritable talent de mime par ailleurs. Tous ces danseurs américains et allemands vont faire école, de la même façon que la danse classique a rayonné autour de la France dès le XVIIe et le XVIIIe siècle et s'est ensuite répandue à travers la Russie, bien entendu. Eh bien là, c'est à partir de l'Allemagne et des États-Unis que va rayonner cette nouvelle danse, et avec bien sûr des conflits. Vous imaginez bien que tout le monde n'est pas d'accord. Et voilà ce que nous dit par exemple Serge de Diaghilev, qui lui incarne d'une certaine manière l'ancien monde dans tout ça. Encore la vieille école russe, même s'il l'a totalement rénovée, réinventée. D'un camp, Dalcroze, Laban, Wigman donnent des assises solides pour la recherche d'un style nouveau, dit-il. Leur entreprise pour accroître les possibilités de ce sublime instrument qu'est le corps humain est digne de notre approbation. Mais leur croisade contre la danse classique qu'ils jugent périmée a conduit la chorégraphie dans une impasse d'où elle n'arrive pas à sortir. L'Allemagne a des danseurs qui peuvent admirablement se mouvoir, mais qui ne savent pas danser. Est-ce que j'irai jusqu'à vous dire que je partage assez certaines de ces conclusions-là ?
Vous écoutez Radio Classique.
Il est arrivé en faisant des petits entrechats tout à fait discrets, c'était magnifique d'ailleurs. C'est Christian Morin, bonjour Christian.
Je prépare mon balai. Alors à l'inverse de ce que vous disiez justement, bonjour à tous et bonjour Franck. Nous avons déjà, Francis Drezel a choisi la musique, et là je vais travailler sur le balai, sur les entrechats comme vous dites.
Vous faites la chorégraphie dans l'ordre normal, vous en faites.
Exactement, voilà. Oui, on ne met pas la musique, on ne choisit pas la musique après. Encore que, ce doit être très intéressant aussi comme démarche.
Oui, bien sûr, mais toutes ces démarches sont tout simplement passionnante.
Et vous parliez de mime, j'ai une anecdote formidable que Pierre Tchernia m'avait livrée à propos du mime Marceau. Après la guerre, dans les années 48-49...
J'ai eu la chance de voir souvent sur scène.
Ils étaient tous ensemble avec toute l'équipe de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait Roger Pierre, il y avait Jean Carmet, bien sûr, les comédiens débutants. Et ils vont voir le mime Marceau.
Donc, Marcel pour les intimes.
Bip, qui rentre, qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre.
Et aussi, oui, bien
ne l'oublions
sûr, oui.
pas. Et donc, il commence son spectacle... Le silence extraordinaire. Et pendant que le mime Marceau s'ébrouait sur scène, il y a Tchernia me dit, j'entends Carmé qui n'arrêtait pas de ruminer en disant, je peux pas le faire. Est-ce que je le fais? Je vais le faire. Alors Tchernia lui dit, ta gueule, tais-toi. Et à un moment, Carmé se lève et il crie plus fort. Ils ne se sont pas parlé pendant 3 mois. Alors qu'ils étaient très copains. Voilà, petite anecdote. Merci pour cette évocation de la nouvelle danse. Cet après-midi, bien après la danse et les mouvements de danse, ce sera l'image avec les Frères Lumière.
Mais oui, nous allons aux origines même du cinématographe.
Voilà, on pense à Lyon, bien sûr, et à Marseille avec la gare de la Ciotat et ce train qui a fait fuir les premiers spectateurs. Merci Franck, passez un bon week-end et à lundi.
Bonne journée et bon week-end.